Vous êtes toujours à l'écoute du RESF, un réseau d'éducation sans frontières, et sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et je rappelle que cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt téléchargeable sur le site RESF. Et je propose que l'on parte tout de suite en Guyane avec Fanny de Cayenne. Et ça a été enregistré donc ce matin et c'est tout à fait surprenant et édifiant ce qui se passe en Guyane. Donc nous partons tout de suite pour Cayenne. Bonjour Myriam, tu es Myriam Dufay. RESF Guyane, et tu vas nous parler un petit peu de ce qui se passe actuellement en Guyane, parce que c'est très grave, très important, très inquiétant et en même temps très intéressant.
Ouais, bah oui, il y a beaucoup d'enjeux. On fait face à des situations un peu critiques et il y a urgence quand même à réagir, je pense.
Et là, on a eu un petit peu en vrac, hein, donc un jeune dont on va beaucoup parler qui a été arrêté. Par chance, il n'a pas été expulsé tout de suite, il a été placé au CRA, donc au centre de rétention, mais grâce à la mobilisation lycéenne, il n'a pas été expulsé et on a reconnu sa nationalité française. Mais aussi un certain nombre de mamans sans papier qui ont été arrêtées le jour de la rentrée des classes. Des opérations de décasage, c'est-à-dire d'expulsion de squats faites par des milices qui, en tout cas vu de métropole, ressemblent un petit peu, alors je crois que c'est pas tout à fait le cas, mais ressemblent un petit peu à ce qu'on appelle ici les identitaires. Et puis quand même 10 000 enfants qui sont privés d'école dans le département.
Oui. Oui, c'est ça. Le chantier est vaste. Si tu veux, on peut commencer par le jeune, c'est d'actualité.
Ouais.
Effectivement, il y avait un enjeu quand même fort là pour les associations et notamment pour RESF, parce que ce jeune ne soit pas expulsé, parce que il y avait des accords. Un engagement pris par la préfecture, des accords tacites entre la préfecture et le rectorat et les associations, depuis déjà plusieurs années, je crois depuis 2009, qui suspendait toute reconduite à la frontière pour les jeunes scolarisés, lycéens ou étudiants. C'était déjà arrivé qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient placés au CRA, voire à domicile, mais on n'avait jamais été jusqu'à l'expulsion depuis cette date. Et là, on a bien senti que la préfecture irait jusqu'au bout et ne ferait pas suspendre l'expulsion. Les jeunes, il y a eu une très très forte mobilisation des jeunes lycéens, qui sont quand même descendus dans la rue à plusieurs reprises, avec quand même des débordements, parce que sur des manifestations, des marches absolument pacifiques et en chanson, ils ont quand même été gazés par la police nationale. Ça se justifiait carrément pas. Il y avait vraiment aucune violence. Et finalement, cette mobilisation, elle aura fait du bruit autour de cette situation, mais ce ne sera pas ce qui aura permis à ce jeune de sortir du CRA. Il est resté quand même 18 jours ou pas loin. Et en réalité, ce qu'il a dit dès le départ, il avait fait un recours au tribunal administratif et il a dit « mais mon père est français ». Mais ça n'a pas été entendu. Et là, il y a eu un avocat qui a dit la première chose à faire, on va demander l'extrait d'acte de naissance du père.
Tu me pardonnes si je te coupe, mais très souvent en Guyane, les expulsions, c'est des expulsions, on pourrait dire minutes. C'est-à-dire que le passage au CRA est de quelques heures, la personne est expulsée immédiatement sans pouvoir passer par le tribunal administratif. Et là, je crois que c'est la mobilisation qui a permis qu'il ne soit pas expulsé immédiatement.
La mobilisation, effectivement, du coup, la CIMAD a pu essayer d'effectuer des recours. Il y a eu tellement de monde que la préfecture a dit qu'elle allait étudier toutes les situations, les recours possibles pour voir si... Et donc, effectivement, ça a permis d'avoir le temps.
Ouais.
Bon, pour lui, c'était quand même du temps emprisonné, hein, mais, Mais nous, ça nous a permis d'avoir un peu de temps pour organiser le.
Pour organiser sa défense, ouais.
La riposte. Et alors, bon, bah, c'est quand même un hasard incroyable que ce jeune, justement, soit français. Mais ça montre quand même l'absurdité de la situation et on est bien content que ça arrive là, en fait. Parce que, voilà, on se dit que peut-être pour les fois prochaines, on ira un peu moins vite, que la préfecture, elle étudiera bien. Et c'est aussi sur la question aussi du doute systématique. C'est, ouais. On doute systématiquement de ce que les migrants, en général, affirment. Et là, en l'occurrence, il l'a dit que son père était français. Ni la préfecture, ni le tribunal n'a jugé bon de vérifier. Et c'était le cas, quoi.
Oui, on doute de ce que les migrants ou ceux qui pourraient être identifiés par les autorités administratives comme étant des migrants, parce que le jeune, eh ben, c'est un Français qui vit en France. Enfin, même si la Guyane, c'est de l'autre côté, on peut quand même parler de principe d'insularité pour ce territoire qui n'est pas une île, hein, ce département qui n'est pas une île. Mais le Bob était français et n'était pas un migrant, ni pas un immigré. Ouais.
Bon, après, ça... ça montre aussi que finalement le message envoyé aux jeunes est un peu inquiétant quand même. En Guyane, ils se sont mobilisés plusieurs fois. Ils ont demandé à ce qu'une délégation soit reçue en préfecture. Ils n'ont pas obtenu. Ils n'ont pas obtenu gain de cause là-dessus. Ils ont été gazés sur une manifestation de solidarité. Tout ça est bon. Un peu décevant. On pourrait attendre d'adultes responsables que au moins on entende, on peut ne pas être d'accord, mais au moins voilà, quand les jeunes essaient de s'exprimer dans une démarche absolument positive de solidarité, c'est pas sans violence, on peut quand même les entendre au moins.
Ouais.
Et finalement c'est eux qui avaient raison. Donc, ça fait un peu d'humilité.
Et ce, d'autant plus que, d'après des communiqués que j'ai pu voir, notamment de migrants outre-mer, donc il y a eu en juin 2018 une rencontre entre RESF et la préfecture, et le préfet a dit que le plus important, c'est que les élèves aillent régulièrement à l'école et qu'il n'y aurait pas d'arrestation et d'expulsion d'élèves scolarisés.
Oui, oui, oui. Bah, en fait, il a réitéré des engagements qui existent, voilà, de la préfecture quand même depuis 2009 et qui nous a permis à RESF jusqu'à maintenant de toujours parvenir à ce que les jeunes scolarisés ne soient pas expulsés. Et oui, il a confirmé l'importance de l'école et de maintenir les jeunes dans le milieu scolaire et là clairement la préfecture a quand même manqué à sa parole et à ses engagements et c'est ce qui a fait aussi que les syndicats, les associations et les collectifs citoyens se sont mobilisés parce que ça aurait fait un précédent, ça c'était pas acceptable de laisser passer ce cas-là en fait qui était le premier depuis 2009
à être,
bon, finalement, oui, qui aurait été reconduit, ouais.
Ouais.
Alors qu'il peut prouver qu'il est scolarisé, qu'il suit assidûment ses cours, et qu'il est dans un processus d'insertion.
Oui, qu'il suit ses cours, et puis qu'il est français. C'est.
Et oui, et au final, non, mais tout ça, on le savait pas encore. Et au final, il est français, et ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc, on aurait voulu pouvoir quand même gagner sans ça, mais ça montre aussi un peu l'aberration de notre système et en quoi il est pas forcément juste, quoi, et que donc peut-être il faut passer un petit peu plus de temps, il faut étudier davantage au cas par cas les situations et pas prendre de décisions trop hâtives qui lui auraient mis un Français quand même. Expulser un Français, ce ne sera pas la première fois en Guyane, c'est déjà arrivé, mais c'est quand même assez incroyable. Oui, ça a pu déjà arriver, ouais. Mais bon, c'est pas acceptable, quoi.
Ouais. Et il y a eu aussi, donc ça, au moment de la rentrée, et peut-être ça continue, il y a plusieurs mamans qui ont été arrêtées sur le chemin de l'école.
Oui, pareil. Alors ça, c'était aussi un autre engagement aussi de la préfecture. C'est un peu du bon sens de ne pas faire de contrôle à la sortie de l'école, enfin à la sortie des mamans de l'école ou à l'entrée des enfants à l'école. Pareil sur les centres de soins. En fait, que les droits fondamentaux puissent être respectés, et pour ça, il faut permettre leur exercice. Et c'est sûr que si on commence à mettre des cordons de contrôle de papier devant les centres de santé et l'hôpital, c'est le droit à la santé qui est bafoué.
Ouais.
Et si on fait des contrôles d'identité à la sortie de l'école, quand les mamans viennent de déposer leurs enfants à l'école, alors c'est le droit à l'éducation des enfants qui peut être
ouais.
contrarié, mais c'est surtout le droit des enfants à vivre avec leur famille, parce que du coup, on reconduit les mamans sans reconduire les enfants, qui, dans les pires des cas, sont après placés par l'ASE. C'est quand même des situations familiales dramatiques qu'on provoque. Donc, il y avait comme un consensus sur ces questions-là, mais ça montre qu'il faut les rappeler. Enfin, rien n'est acquis durablement. Il faut remiliter, se battre de nouveau pour que ce soit respecté. C'est respecter un temps, et puis on en revient aux vieux démons et on recommence, on retombe en fait dans les vieux travers qu'on croyait avoir dépassé. Et non. On fait une petite marche arrière et il faut de nouveau réobtenir des engagements pour l'avenir. Mais c'est donc là, il y a la CNCDH qui a sorti une tribune en septembre, voilà, sur la non-scolarisation, ça participe.
Alors, peut-être
de ça
rappeler,
aussi.
Rappeler que la CNCDH, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est une instance tout ce qu'il y a de plus officiel.
Oui, on a participé à la rédaction d'une tribune qui est signée par de nombreuses associations et personnes pour dénoncer justement la non-scolarisation en France. Et le lien, il est important, parce qu'effectivement, si des jeunes ont la boule au ventre et quand ils vont à l'école, ils ont peur de pas pouvoir en sortir ou rentrer chez eux le soir ou retrouver leurs parents, on favorise pas la scolarisation des enfants. C'est un obstacle aussi majeur, et notre situation au regard de la scolarisation en Guyane, il est assez dramatique. C'est difficile de connaître l'ampleur, parce qu'il n'y a pas d'identification de repérage systématique des enfants non scolarisés, ce qui rend le travail des associations, l'accompagnement et la médiation vers l'école un peu compliqué. Mais CNCDH publie quand même quelques estimations, et notamment estime à 10 000 enfants en Guyane qui seraient privés d'école, ce qui est quand même...
C'est énorme.
Quand même pas rien.
Ouais, c'est énorme pour un des départements.
Mais déjà...
Non, je disais, c'est énorme pour un des départements les moins peuplés de France.
Oui, c'est ça. Après, notre part d'enfants dans la population est quand même importante, mais effectivement, non, c'est énorme. Mais ils disent aussi que finalement, au niveau de toute la France, c'est 80% des enfants qui vivent en bidonville ou en squat qui ne sont pas scolarisés. Tout ce qui est habitat précaire, d'urgence ou dans la famille. Or, on a quand même en Guyane énormément de quartiers spontanés et de squats.
Ouais.
Et la proportion, elle est beaucoup plus importante, je n'ai pas de chiffres, mais que dans la moyenne nationale. Donc ça doit aussi participer du fait qu'on ait autant d'enfants non scolarisés. Parce que les emplois, les la précarité, les squats, c'est quand même des expulsions régulièrement, c'est des difficultés, par exemple, d'inscription scolaire, parce qu'on a beaucoup de, on a vraiment beaucoup de freins à l'inscription scolaire, avec des refus de guichets.
Ouais.
Des listes de pièces à fournir par l'inscription des enfants qui évoluent et qui sont différentes selon les communes, mais qui même peuvent évoluer pour une seule personne qu'on va, à qui on va demander des pièces complémentaires à la liste. Et puis, toujours pareil, un doute systématique sur les pièces justificatives, de se dire que peut-être ce n'est pas un vrai, donc on va réclamer davantage de pièces qui mettent les personnes, les familles en difficulté pour répondre à l'exigence administrative. Et puis aussi les quartiers spontanés. Ah ben justement, il y a les, en l'occurrence, en Guyane en particulier, les justificatifs de domicile qui sont une vraie difficulté, puisque dans les quartiers spontanés, les gens, ils n'ont pas de facture d'eau, ils n'ont pas de facture d'électricité. Et cette précarité et cette insalubrité va provoquer de la non-scolarisation, puisqu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas prouver leur adresse, qui ou bien empêche l'inscription scolaire, ou dans les cas où on y parvient quand même, empêche par exemple le transport. Le transport scolaire, on ne sait pas où tu habites et on ne vient pas te chercher. Ce qui, pour ceux qui sont le plus éloignés de l'école, est un vrai frein à la scolarisation.
Oui, donc il faut dire que la Guyane, c'est quand même, c'est un département qui est immense. Tout le monde n'habite pas en ville. Il y a des gens qui habitent dans la forêt, et la forêt, c'est la forêt amazonienne.
Oui, les communes sont assez, assez étendues, effectivement, et il y a beaucoup d'îlots d'habitat éloignés des centres-villes qui nécessitent du transport, et on n'a pas encore, ça s'améliore, on n'a pas encore une très bonne couverture des transports communs en général et scolaires en particulier.
Ouais.
On manque d'établissements scolaires, on manque de personnel enseignant. Il y a beaucoup de d'obstacles à la scolarisation qui peuvent expliquer le chiffre un peu, je vais dire inquiétant, mais
oui, ce chiffre qui
à ce stade, c'est carrément, ça devrait être alarmant.
Oui, non, mais qui est absolument énorme. Enfin, quand j'ai vu ça, j'ai d'abord pensé qu'il y avait peut-être une faute de PRAP et qu'il s'agissait de 1 000 enfants non scolarisés et pas de 10 000. C'est véritablement ce qu'on appelle une situation coloniale, quoi. C'est
deux fois plus qu'à Mayotte. Mayotte, c'est les estimations donneraient à peu près 5 000 enfants privés d'école.
Mmh.
Donc, ouais, de toute façon, je ne maîtrise pas particulièrement, mais c'est dans la tribune qui a été publiée dernièrement. On peut faire, c'est difficile de Guyane de faire le parallèle avec Mayotte. Je ne maîtrise pas très bien la situation de Mayotte, mais oui, les spécialistes commencent à voir quand même sur la non-scolarisation, mais pas que, quoi. Sur l'immigration, sur le droit d'asile, il y a quand même pas mal de situations qui sont problématiques. À Mayotte comme en Guyane.
Et en Guyane, je crois, pour demander l'asile, c'est quelque chose qui est très compliqué, encore plus compliqué qu'en métropole.
En Guyane, la demande d'asile, alors je ne suis pas une spécialiste, mais la demande d'asile a toujours été un petit peu compliquée. Mmh. On a quand même deux barrages qui coupent la Guyane en trois et qui rend difficile l'accès au centre-ville, au centre administratif pour les personnes qui arrivent par le Brésil ou par le Suriname, c'est-à-dire la majorité des personnes.
Ouais.
Ces barrages sont déjà un obstacle en général d'accès aux droits et en particulier compliquent la tâche des demandeurs d'asile. Mais là, il y a le décret Guyane, enfin, on l'appelle décret Guyane en Guyane, ouais. Qui réduit encore les délais de demande d'asile depuis début septembre, il est appliqué en application. Et, Et du coup, ben, ça rend ben, encore plus difficile ce qui déjà était pas simple, quoi. Les dépôts de demande d'asile maintenant sont passés de 21 jours à 7 jours, sont de 21 jours sur le reste du territoire et 7 jours en Guyane, alors que justement on est la région qui a le plus de difficultés à circuler et où les personnes peuvent être le plus éloignées d'un centre avant la préfecture et aujourd'hui de l'OFPRA, quoi. Parce que c'est à Cayenne. C'est à Cayenne, et quand on voit la taille de la Guyane, bon, on peut vite se comprendre que c'est un petit peu compliqué de pouvoir faire cette demande en 3 jours. Surtout que depuis qu'on a l'OFPRA, il me semble, ça sera confirmé avec les semaines, que du coup, il faut le déposer directement à l'OFPRA. Et donc, les demandes par courrier ne sont plus valables. Et alors là, il faut en plus qu'ils puissent se rendre physiquement à Cayenne, à l'office, et ça, c'est presque. Comment dire, ce n'est même plus caché que c'est que l'intention est vraiment d'empêcher l'accès à la demande d'asile parce que enfin pour la plupart des personnes c'est irréalisable. En plus du coup l'OFPRA n'est pas ouvert tout le temps. Donc 7 jours pour déposer sa demande physiquement à Cayenne. Et les locaux sont ouverts de 8h à 10h du lundi au jeudi. Enfin,
Ouais,
c'est
donc c'est une mission
voilà
quasi
ça.
impossible. Et je crois qu'il y a un gros problème. D'ailleurs, tu parles des barrages qui coupent la Guyane en trois, mais y compris des gens qui ne sont pas des demandeurs d'asile, qui sont des Français, mais qui ne peuvent pas faire valoir leur nationalité, avoir leur papier, parce que pour passer ces barrages de police qui sont en pleine forêt, il faut avoir ses papiers. Pour avoir ses papiers, il faut aller les faire à Cayenne. Et donc c'est un système qui empêche la régularisation administrative de gens qui ne devraient pas être en situation irrégulière.
C'est ça. Et puis ça mobilise la société civile parce que finalement, ben, les associations, elles dépensent énormément d'énergie, elles passent beaucoup de temps à juste permettre aux personnes d'accéder à leurs droits parce que notamment pour les raisons médicales, pour pouvoir passer le barrage, il faudrait une convocation de l'hôpital. Donc ça demande aux médiateurs, aux associations de faire aller-retour, d'aller à l'hôpital, de réussir à obtenir la convocation, de repasser de l'autre côté, de repasser avec la personne avec une dépense d'énergie et de moyens, parce que on a tellement d'obstacles finalement dans le parcours de droit que il faut faire preuve de beaucoup beaucoup d'énergie pour pouvoir surpasser, et donc ça reste quand même une minorité, quoi. Ceux qui vont pouvoir être accompagnés par les associations, notamment sur la demande d'asile, par la CIMADE, ont une chance que leur demande aboutisse même pas, je dis même pas une réponse favorable, mais enfin, en tout cas, soit déposée dans les temps. Et ça laisse tous les autres sur le carreau, c'est impossible que toutes les personnes puissent parvenir à répondre aux exigences de plus en plus drastiques. Du coup, oui, c'était au départ, la raison qui était invoquée, c'était pour écarter le plus vite possible les demandes abusives, mais là, ça clairement, c'est un objectif quand même clair de repousser les demandes d'asile.
Oui, c'est à se demander si on considère pas qu'une demande d'asile est intrinsèquement abusive, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais en plus, il y a eu un collectif d'associations qui a contesté en justice l'expérimentation, hein, qui accélère l'instruction des demandes d'asile. Et le 25 septembre, là, ça a été rejeté par le Conseil d'État, la requête. Donc, je suis pas une spécialiste, mais je vois que dans Guyaweb, il y a un article qui explique un petit peu le pourquoi, comment le Conseil d'État a estimé que le décret Guyane était légal.
Et
bon, c'est pas le sentiment qu'on a ici.
Oui, c'est. Et sinon, il y a des choses qui sont aussi tout à fait inquiétantes. Hein. Il y a des opérations d'évacuation de squats par des espèces de milices surprenantes, enfin, ouais. Sur Cayenne.
Personnellement, je n'arrive pas à savoir ce qui est le plus inquiétant. Les milices qui font du décasage ou les forces de l'ordre qui n'interviennent pas. Parce que c'est. On est finalement face à une situation d'actes illégaux.
Oui.
Annoncés.
Oui.
Par voie de presse.
Oui.
La préfecture a laissé faire. Elle a estimé qu'elle n'avait pas à intervenir pour l'empêcher.
Ouais.
Quand même, avec même le soutien de la mairie. Ça me semble très très inquiétant. Alors on s'arrête où? Parce que là, leur argument, c'est on peut rien faire pour éviter les squats. Hein, ça dérange les voisins, c'est quand même pas agréable.
Ouais.
Et donc, si l'État fait rien, il faut bien qu'on prenne nos responsabilités et qu'on s'en occupe nous-mêmes. Enfin bon, si c'est valable pour. Pour les squats, je vois pas pourquoi ça serait pas valable pour autre chose. Enfin, voilà. À quel moment, du coup, puisqu'on accepte que parfois on puisse faire justice soi-même, quelle est la limite? Ça serait bien que ce soit clairement posé par la préfecture, qu'on ait un texte qui nous dise dans quel cadre on peut accepter que les gens décident d'eux-mêmes de ce qui est dérangeant, pas acceptable, et puissent expulser les familles de leur domicile. Bon, c'est inquiétant parce que ça renforce, ça donne confiance, ça renforce ces milices qui s'estiment autorisées.
Et ça, moi, ça m'a fait. Enfin, j'ai fait un parallèle quand j'ai vu passer cette information, mais tu pourras me dire si mon parallèle fonctionne ou fonctionne pas. Mais on a vu ce type de choses-là, notamment à la frontière franco-italienne, dans les Alpes, avec des milices identitaires qui viennent prêter un coup de main à la police, qui arrêtent des gens, qui les renvoient en Italie. Et la police n'intervient pas. Où la police récupère les gens que les milices identitaires ont attrapés. Quand il y a des solidaires qui sont là, qui manifestent, ils se font arrêter, ils se retrouvent en taule. On va avoir un procès au mois de novembre à Gap. Voilà, donc c'est les identitaires qui font ce boulot-là ne sont pas inquiétés. Est-ce que ce n'est pas un parallèle à voir avec ces opérations de décasage qu'on peut voir en Guyane?
Oui, après moi je suis carrément encore moins une spécialiste de la frontière franco-italienne, mais en tout cas un laisser aller une démission de l'État sur les questions qui l'arrangent, hein, parce que finalement on a une politique qui de toute façon rend la vie elle-même déjà plus compliqué aux personnes qui sont très précaires et qui vivent pour nous dans les squats ou aux migrants, demandeurs d'asile. Et du coup, on laisse faire toute initiative citoyenne qui va dans ce sens-là. Mais enfin bon, c'est pas dit qu'un jour, ces milices-là, elles n'auront pas aussi des interventions qui iront contre les intérêts et la politique du gouvernement. Et là, effectivement, dans ces cas-là, t'es condamné. Donc, en fait, on n'est plus sur la loi, on n'est plus sur ce qui est légal ou pas légal, on est sur ce qui nous arrange ou nous arrange pas.
Voilà.
Ça paraît pas acceptable, où que ce soit des migrants, des demandeurs d'asile, des squats, peu importe, même le voleur dans ma voiture que je vais... qui m'a volé ma voiture, je vais lui casser la figure. Enfin, quelle que soit, en fait, la situation, je ne pense pas qu'on gagne à ne pas avoir la même règle pour tout le monde et à permettre que certains puissent être hors les clous, hors la loi, quand d'autres, au contraire, ne peuvent même pas agir par solidarité quand ça devient un délit d'être solidaire, comme des jeunes qui sont gazés pour manifester pacifiquement en solidarité avec, avec leurs camarades, et que par contre des gens puissent sortir des familles de leur squat pour les mettre à la rue sans aucune réaction de personne. Ça interpelle, je pense que c'est assez inquiétant, je pense que ça demande à ce que la société civile on soit en capacité de se réunir, de réfléchir et d'agir, parce que j'ai pas l'impression là que ça va en s'arrangeant, quoi.
Ah ouais, non, mais c'est très très inquiétant et c'est particulièrement inquiétant. Il faudrait plus parler de ce qui se passe outre-mer, donc en Guyane et à Mayotte, hein, ce qu'on va faire la semaine prochaine, parce que en plus c'est un laboratoire de. L'expérience a toujours montré que c'était un laboratoire de ce qu'allait se faire après en métropole et ça montre aussi qu'on est dans des situations coloniales et que la France n'est pas une et indivisible.
Oui, en plus, alors c'est aussi ce qui est un petit peu, ce qui fait un peu mal au cœur, c'est que quand on est sur des territoires qui sont déjà un peu abandonnés, pas tellement pris en compte, avec un retard structurel de plusieurs années, et on s'aperçoit que finalement on fait l'objet d'expérimentations, mais que ce qu'on expérimente sur nos territoires, c'est moins de droits.
Mmh.
Et toutes les spécificités en droit que nous avons,
ouais.
C'est pour nous enlever du droit.
Mmh.
C'est pour qu'on ait moins droit qu'ailleurs.
Ouais.
Je ne crois pas que ce soit une démarche de rééquilibrage territorial, d'équité, de rattrapage. Je crois que, en fait, on nous empêche d'avancer réellement, en fait.
Ouais.
On nous met des freins supplémentaires.
Mmh.
On aurait plutôt besoin de moyens complémentaires.
Absolument. Et là, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais si tu as des choses à ajouter, et puis sinon, le micro de FPP, t'es de toute façon ouvert dès qu'il y a des choses qui se passent.
Je suis bien contente d'avoir pu m'exprimer. Ça serait intéressant qu'on puisse, à nous ici, s'organiser pour pouvoir intervenir sur des structures différentes qui pourraient aller plus en profondeur sur des thématiques particulières dans le réseau Éducation sans frontières et sur le collectif Droit Guyane. Il y a beaucoup de structures et qui pourraient parler après de beaucoup d'autres questions pour une meilleure connaissance aussi de la situation en Guyane.
Ok, bien écoute, merci beaucoup et merci beaucoup Myriam. Et puis encore, je te répète, donc le micro de FPP et de l'émission RESF, t'es grand ouvert et dès qu'il y a quelque chose à dire, n'hésite pas à nous appeler.
Ok, je te remercie.
Voilà. Au revoir.
À bientôt.
Et merci,
au revoir.
Bientôt. On était donc, vous êtes toujours à l'écoute de RESF, hein, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net pour nous écouter en streaming partout dans le monde. Et on était donc avec Myriam Diffey, hein, depuis Cayenne, hein, enregistré ce matin depuis Cayenne en Guyane. Et non pas Fanny, d'ailleurs, comme j'ai pu l'annoncer en début d'émission. Et comme je vois que les oreilles loin du front, excellente émission, commence à s'installer dans le studio. On va tout de suite passer à notre agenda et comment.